عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, cette la bonne fin appartient aux pieux et les représailles du jour dernier seront contre les injustes. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah, unique, n'ayant aucun associé. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, sur sa famille et sur ses compagnons, et sur tous ceux qui les emboîteront les pas dans le bien jusqu'au jour de la résurrection, face à Allah que nous soyons parmi ceux-là. Ensuite, le meilleur des récits est la parole d'Allah. La meilleure idée est celle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles inventées dans la religion. Et toute chose inventée dans la religion est innovation. Toute innovation est également conduit son auteur dans le feu de l'enfer. Qu'Allah Ta'ala nous préserve tous du feu de l'enfer, qui nous accorde à tout son paradis. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah Ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ici, dans le cadre donc du séminaire de formation islamique de Wadiya, qui a débuté depuis le 26, autour donc du thème des confusions contemporaines au sein des musulmans, comment préserver sa religion. Alors ce matin, donc le 28, nous recevons donc Dr Ahmad Sawadogo, qui va donc nous entretenir autour du thème principal, les confusions contemporaines au sein des musulmans, comment préserver sa religion. Donc l'intervention va se passer en deux phases, bien que nous n'avons pas assez de temps encore. Il y aura une phase d'intervention du conférencier, et ensuite, si le temps nous permet, Inch'Allah, nous allons prendre quelques questions, Inch'Allah. Donc, compte tenu du fait que nous sommes pris par le temps, on ne va pas entrer trop dans les détails de présentation, tout ça. Dr Ahmad Sawadogo est connu déjà. Je pense qu'Inch'Allah, on va faire donc l'économie de ça et directement lui donner la parole pour qu'il puisse nous livrer sa conférence.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله عليهم ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons toujours par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant son aide et son assistance, en cherchant effectivement la bénédiction pour toutes nos entreprises, en le louant et en le voyant exclusivement de culte, en attestant qu'il n'y a de Dieu que lui, il est le créateur des cieux et de la terre sans modèle préétabli, en attestant également qu'il a choisi parmi les humains Muhammad ibn Abdullah pour une miséricorde plus large pour toute l'humanité. Chers frères ici présents et chères sœurs, nous remercions et saluons ces initiatives qui chaque année nous permettent de nous rencontrer ici pour contribuer à propager cette religion qui se suffit à elle-même. L'islam se suffit à elle-même, mais quiconque contribue à sa propagation tire profit pour lui-même. Alors nous avons ce privilège d'être choisi et élu par Allah subhanahu wa ta'ala alors pour véhiculer cette mission qui est si noble. Vous aussi, nous allons vous remercier toujours d'être présent pour nous accompagner dans ces entreprises. C'est-à-dire que c'est la sunna qui est le poumon de l'islam. Sans elle, l'islam disparaît. Il fut un moment en notre temps où on ne croisait pas les bras dans la prière. On n'organisait pas les rangs de la prière. On ne faisait pas le tajwid dans la lecture du Coran. Il n'y avait pas de tawhid. On ne parlait pas de tawhid, de shirk. Il n'était pas question de parler de la sunna en notre volta. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, grâce à vos efforts et aux efforts des uns et des autres, surtout à travers ce séminaire, la lumière est en train de jaillir et d'occuper les espaces. Qu'Allah nous assiste toujours. Donc le thème central aujourd'hui, c'est quoi? Le thème de ce séminaire de l'édition de cette année se centralise sur les confusions. Les confusions qui ont existé depuis l'existence de l'islam. Depuis le départ, cette noble mission a été traitée tantôt de poèmes, de magie, de fabrication individuelle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de versets sataniques depuis son apparition. Et Allah a pris soin de répondre à ces accusations en faisant une révélation entière, toute une sourate, sourate Shu'ara, les poètes, pour démentir effectivement ces accusations-là. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Il n'est pas question que les shayatin fassent descendre ces versets-là. Tanzil min Rabbil Alamin. Allah a pris soin de répéter ces versets-là à maintes reprises, soit dans cette sourate intitulée Les Poètes, soit dans d'autres sourates du noble Coran. Et aujourd'hui, dans le temps contemporain, surtout après le 11 septembre, voyant que l'islam se prépare pour émerger notre foi, peut-être conduire l'humanité, alors on a inventé d'autres choses encore, on a inventé d'autres confusions pour l'étouffer. Il est de notre devoir d'élucider certaines choses pour que les frères, les uns et les autres ne tombent pas dans ces confusions-là. Notre prophète, avant de s'en aller, il y a un hadith, je vais citer cela, mais d'abord je vais commencer par le verset numéro 7 de la sourate Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les confusions dans la religion. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. C'est Allah même qui a voulu que ce soit ainsi, qu'il fasse descendre des versets explicites, des versets dont les sens sont clairs, saisissables, et des versets aussi qui comportent des confusions pour tester la foi des gens. فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ceux qui ont la déviation dans leur cœur vont suivre ces confusions-là. Allah nous met en garde dans ce verset-là de ne pas suivre les confusions. Malheureusement, c'est cette confusion-là qu'on utilise aujourd'hui pour ternir l'image de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué aussi, dans les hadiths authentiques, de nous dire « Al-halal bayyinu, wal-haram bayyinu, wa baynahuma amur mushtabihat. » Le halal est clair, le haram aussi est clair, entre les deux se trouvent des zones d'ombre de confusion. Et le prophète de nous dire, comme on est taqa shubahat et sabah al-dini, lui aussi nous conseille de nous écarter carrément de ces confusions-là. Malheureusement, ça a toujours existé. Ça a été l'arme la plus redoutable contre cette religion. Et aujourd'hui, alors, j'ai dans mon bagage 10 de ces confusions-là, alors, que je vais essayer, et selon ma compréhension, alors, de répondre et finir par, alors, donner des leçons. Alors, comment le musulman peut conserver sa religion face à ses épreuves? Parce que c'est le thème central. Alors, comment préserver sa religion? Nous savons tous que la confusion existe. La confusion existe toujours. Mais comment conserver sa religion aujourd'hui? C'est ça maintenant la question clé. Alors, qu'Allah nous assiste. Alors, nous allons nous donner peut-être quelques temps pour des questions. Réponse. Non. La première confusion, c'est la confusion sont timaces, sont nombreuses. Elles ne finissent pas. Et chaque jour, les gens ne font que monter des choses pour pouvoir effectivement. Demain, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Si on trouve effectivement que la première confusion a eu des réponses appropriées, alors on pense à d'autres. Ça a toujours été comme ça. Donc, le combat est toujours quotidien. Le combat va se perpétuer entre le mal et le bien. Non. Donc, je fais allusion à la première confusion qui n'est autre que la confusion dans laquelle on trouve ce slogan-là, le texte et le contexte. Ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion dans la religion. Le texte et le contexte. Par la grâce d'Allah, c'est la seule religion où vraiment les textes-là ont leur contexte bien précis. Les textes du Coran. Et on appelle ça communément Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, ça veut dire que les causes de la révélation. Ça veut dire que chaque verset a son contexte bien précis. Asbab al-Nuzul. On vient, on pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah fait descendre une révélation. Il fait une révélation. Asbab al-Nuzul. Donc aujourd'hui, alors, il y a des ennemis qui utilisent cette spécificité de la révélation, des contextes de la révélation, pour dire effectivement qu'il faut comprendre ces textes-là dans leur contexte. Il faut comprendre ces textes dans leur contexte. Alors, cela va amener d'abord une grande confusion, parce que le monde continue. Nous ne sommes plus dans le contexte des Sahaba, de la première génération de l'islam. Le monde continue. Alors, donc, avec cette continuité, alors que les textes-là deviennent anciens à ce moment, des textes qui ne parlent plus, qui ne concernent plus notre réalité, qui ne parlent que de réalité révolue. En ce moment-là, alors on va vous dire de chercher d'autres textes ou bien d'essayer d'adapter ces textes-là au contexte actuel. Et ça va amener une rupture totale entre la génération d'aujourd'hui et la génération d'antan. Et le prophète nous a dit ça, il a dit ça en dans un hadith authentique, lorsque les derniers vont bannir les premiers. Attendez-vous vraiment à des troubles. Les derniers vont bannir les premiers. Ils vont dire que les premiers, ce qu'ils faisaient là, étaient anormales. Donc il faut trouver d'autres structures, d'autres choses encore mieux adaptées à nos réalités. Alors, donc d'abord, il y a la confusion. Et secondo, ça va s'aimer, créer la discorde et la rupture entre la génération d'aujourd'hui et celle alors d'antan. Donc ça, c'est vraiment un danger. Alors, c'est pourquoi, si j'ai bonne mémoire, un prêcheur au Mali, dans sa cassette, qui a utilisé ce slogan-là pour dire effectivement que Waqarna fi buyuti kunna, lorsque Allah s'adresse aux femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Waqarna, restez-en à la maison, Waqarna fi buyuti kunna, voilà tabaraja tabaraja jahiliyat al-ula, il dit que ça ne concerne que les femmes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis au début même du verset, c'est dit, il y a Nisa an-Nabi. Donc ça le concerne. Donc on ne doit pas étendre le sens pour que ça concerne aujourd'hui la femme d'aujourd'hui. Donc, à ma grande surprise, ça a été répété partout. C'est tous ceux qui veulent contrecarrer la sunna et être hostiles au salafisme. Ça a été vraiment leur slogan. Non. Dans ce livre-là, de la compréhension de la sunna à l'unité musulmane. Un frère, Bobolet, il est de Ouaïga ici, mais actuellement il voudrait y résider à Bobo Dioulasso. Dans ce livre, il dit très clairement, dans les premières pages, que le verset qui s'adresse en premier lieu aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah dit « Fa'idha sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab » Alors si vous leur posez des questions, vous avez des choses à régler avec elles, que ce soit derrière, c'est-à-dire un voile, min wara'i hijab. Donc il soutient ici que ça ne concerne que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc c'est le contexte spécifique du verset qui a été compris ici. Alors, pour semer la discorde et la rupture entre la femme d'aujourd'hui, la femme contemporaine et la femme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement que les savants, la sagesse des savants, alors a permis de dégager, c'est-à-dire une phrase très noble, alors qui peut nous servir dans tous les temps. Lorsqu'ils disent que Al-Ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab. L'essentiel, c'est vrai que chaque verset a son contexte spécifique. Mais l'essentiel pour nous, ce n'est pas la spécificité du contexte, mais plutôt l'esprit général du texte. L'esprit général du texte qui veut que chaque texte qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à ses femmes soit aussi le même texte qui concerne toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Al-Ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Donc vous voyez comment aujourd'hui, alors ce slogan-là a été utilisé pour tenir l'image du salafisme, dire effectivement que ce sont des gens qui vivent dans le passé. Ils n'évoluent pas, ils ne progressent pas avec le temps. Non. Et si nous agissons de la sorte, nous allons nous trouver un jour comparable aux chrétiens d'aujourd'hui qui, pendant le débat sur l'abolition de la peine de mort, ont envoyé avancé des arguments disant que, alors, c'est vrai que dans la Bible existe noir sur blanc la peine de mort, mais comme les sociétés et l'esprit humain même évoluent, il faut évoluer avec le contexte. Donc c'est ce problème-là qui veut aussi contaminer certains musulmans. Mais par la grâce d'Allah, vous êtes là en tant que sunnite, alors vous allez contrecarrer ces gens de prétention pour effectivement laisser les musulmans vivre leur foi alors comme il se doit. Donc ça c'est la première confusion que j'ai à vous présenter, le texte et le contexte. Alors chaque texte a son contexte, mais c'est l'esprit général du texte là qu'on vise, c'est pas le contexte spécifique. C'est pour que le Coran appartient à toutes les générations et à toutes les époques. Naam. Donc ça c'est la première confusion. La deuxième confusion est que dans le Coran, il y a des versets aussi qui traitent des gens de kuffar. Kafir, kafir, kafir. Ça existe beaucoup. Zalim, zalim, zalim. Fasiq, fasiq. Ça existe. Naam. Dans des contextes bien précis. Et malheureusement, alors, certains se sont emparés de ça pour traiter tout de kuffar. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus une secte à part entière qu'on appelle le takfirisme, jusqu'à assimiler le takfirisme au salafisme. Naam, le takfirisme, les khawarij sont le takfirisme, al-hakimiyya, aujourd'hui je ne vais pas les nommer, il y en a qui disent que ceux qui n'appliquent pas la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne font pas la charia alors qu'ils sont censés, la faire, alors sont des kuffars. Amma lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Alors on s'appuie sur le texte apparent, le sens apparent de ces versets-là pour traiter tous les chefs d'État arabes comme musulmans qui n'appliquent pas la charia de kuffar. Ça amène vraiment beaucoup d'amalgame au sein de la société. Ça c'est entre musulmans même. Entre musulmans, des musulmans qui vont prendre les armes contre le pouvoir central. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas la charia. Ils ne savent pas que souvent, ces pouvoirs-là aussi subissent des pressions externes. Des pressions qui sont au-delà de leur capacité. Souvent c'est ainsi. Donc il faut comprendre le fond de la chose avant d'apporter le jugement adéquat. Donc le takfirisme aussi est une confusion entre les musulmans. À tel point qu'aujourd'hui, celui qui ne dit pas, parle pas de charia, est considéré comme si quelqu'un qui est quoi? On dit même qu'ils sont des salafistes. Ils ont été toujours pacifiques avec les autorités. On nous traite de quoi? De ulama al-fuqah. Naam, les savants des pouvoirs, les savants de la climatisation, les savants qui sont détachés de leur contexte. Ça, c'est pour classer un peu, définir un peu les savants, les saoudiens, qui prêchent le salafisme aujourd'hui. Donc, il y a ce takfirisme-là, il y a le takfirisme, qui est vraiment une confusion aujourd'hui. Naam. L'autre jour, la fête de Noël, j'ai regardé et écouté la vidéo d'un frère de Côte d'Ivoire, un prêcheur de Côte d'Ivoire, alors qui avançait des arguments en disant que celui qui s'assimile à ces gens-là, qui fête Noël avec eux, avec les chrétiens, a contredit carrément l'esprit de l'islam qui dit que Kul wallahu ahadun, Allahu samad lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Il dit que celui qui fête Noël avec eux, ou bien il leur congratule, il leur félicite, il est classé dans l'enfer immédiatement. Jahannam bi salmasir. Donc immédiatement il classe des gens dans l'enfer. Le fait seulement de souhaiter bonne fête à un chrétien et de participer à cette festivité-là. Donc le takfirisme aussi est là. Ça devient une confusion. À tel point que le voyant déjà un barbu, on t'assimile à ça. Quoi. Tout de suite, on pense que voilà, ce sont des gens qui font le takfir. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de choses, les ennemis du salafisme et de la sunna alors, s'en prennent à eux en utilisant ce slogan-là. Dire que voilà, le salafisme, c'est du takfirisme, c'est du khawari. On est très souvent du khawari. Et souvent de takfirisme. Alors qu'en réalité, nous aussi, nous combattons cela. Maintenant, le Cheikh Albani, qu'Allah le pardonne, dans une de ses cassettes, a dit qu'il a reçu la visite d'un type, de quelqu'un qui est venu dire que vous êtes le takfiriste là. Mais tout ce que nous faisons, tout ce qui ne sont pas salafistes, hein, est cadre. Il dit non, doucement. Il a appelé, il lui a posé des questions. Est-ce que vous savez que chez nous, même si tu trouves quelqu'un en train d'adorer une tombe, tu ne peux pas les traiter tout de suite de kafir. Jusqu'à ce que tu t'imprègnes alors du contexte et de ce qui l'a poussé à faire cela. Après maintenant, tu peux apporter le jugement nécessaire. Donc, il a pu convaincre le type-là pour qu'il devienne aujourd'hui, en son temps, disciple de Cheikh Albani. Donc, c'est dire qu'il y a cette confusion-là à cause de... Parce qu'il y a des éléments, des jeunes, effectivement, des gens très, très motivés qui utilisent ce terme-là, alors pour traiter les gens au hasard. Tu fais kabira, tu es kafir. Tu forniques, tu es kafir. Tu n'appliques pas la charia, tu es kafir. Tu collabores avec une autorité, tu n'appliques pas la charia, tu es kafir. Et ainsi de suite. Donc ça a vraiment amené une confusion, à tel point que ceux qui ne sont pas avec eux, vous savez qu'en Égypte, il y a Jama'at Takfir wal-Hijra. Takfir wal-Hijra, ce sont eux qui ont estimé que tous ceux qui vivent, yani, dans les grandes agglomérations avec dans les pouvoirs qui acceptent vivre la démocratie et vivre avec ces pouvoirs-là, alors avec une collaboration quelle qu'en soit, alors, et qui ne migrent pas vers eux parce qu'ils ont quitté ces grandes agglomérations pour aller se créer des sites où ils veulent appliquer la charia. Alors tous ceux qui n'acceptent pas à migrer vers eux sont traités de koufars. Donc, il est permis de les exterminer. Il est permis, alors, de piller leur avoir, comme vous voyez maintenant le cas au Nigeria, où effectivement, on se permet de kidnapper des jeunes filles, souvent même musulmanes. On se permet de verser du sang des innocents, des musulmans, parce que ces musulmans-là collaborent avec les autorités qui n'appliquent pas la charia. Donc, il y a cette confusion-là aussi. Alors, on vous met en garde. Nous, effectivement, nous sommes hostiles à ça, nous sommes contraires à ça. Notre doctrine et notre message consiste effectivement à montrer le juste milieu que je vais montrer ici, Inch'Allah. Donc il y a le takfirisme qui est là, qui est vraiment une confusion, alors à y remédier. Troisièmement, il y a le laxisme. C'est deux extrêmes diamétralement opposés. Le laxisme dans les livres d'Aqidah est appelé al-murja, al-irja. Al-Irja, qui a existé depuis longtemps. Naam. C'est-à-dire avoir le nom musulman seulement, mais ne pas appliquer la charia. Ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. Avec ce délaissement de l'application de la charia, le phénomène a pris de l'ampleur. Mais ça a bien existé avant notre époque. Al-Irja. Alors donc, tous ceux qui disent « là, il est là, sont des musulmans ». Ça, c'est une confusion. Dans les vidéos, dans les cassettes, vous entendez partout dire que voilà, que les wahhabis, là, les sunnis sont venus et diviser les gens. Alors que eux, ils militent, c'est-à-dire ils sont sous la bannière de « là, il est là, Muhammad Rasulullah ». Donc, tous ceux qui prononcent ce mot-là, cette phrase-là, sont considérés comme des musulmans, la norme. Et il s'appuie ici sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que « Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa anni rasulullah »« Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa anni rasulullah » Alors j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent. Ils attestent que Allah est unique. « La ilaha illa anni » et je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors « Fa in fa'alu dhalika fa asamu minni dima'ahum wa amwala » Alors celui qui atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le Muhammad est son messager, à partir de ce moment-là, son sang devient illicite. On ne peut plus verser son sang. Alors, son bien aussi devient illicite. Alors, donc, voici des textes alors, qui sèment la confusion au sein même des musulmans. À tel point qu'aujourd'hui, alors, faire comprendre aux gens, effectivement, que non, même il y en a qui disent là, il est là, mais qui sont dans le shirk, qui sont dans le kufr, sans le savoir. Parce qu'il ne suffit pas de prononcer seulement le mot, mais il faut joindre l'acte à la parole. Malheureusement, c'est devenu une confusion à tel point qu'aujourd'hui, alors on prend ça comme une arme pour s'attaquer au salafisme et à la sunna. La quatrième confusion, c'est de dire que la religion est le juste milieu. La relation est la modération et la simplicité. Naam, Allah a bien dit cela dans la sourate Al-Baqarah. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Vous êtes la religion du juste milieu. Alors, mais quel est le juste milieu maintenant? Parce que j'ai assisté au congrès d'une grande association du Burkina Faso, en présence des autorités, quand ils ont, quelqu'un a pris la parole, il a dit que voilà, nous vantons au Burkina Faso que nous représentons le juste milieu parmi les musulmans. Le juste milieu, c'est quoi au juste? Parce que selon eux, alors, ça s'approche un peu au laxisme. Le juste milieu, c'est de laisser les gens faire alors, la religion comme bon les semble. Naam, c'est ça le juste milieu. Raser sa barbe, laisser traîner son pantalon, alors laisser sa femme sortir nue, aller où elle veut. Alors tout ça, c'est considéré dans le juste milieu chez eux. Donc la religion du juste milieu est laquelle? Alors donc vous, maintenant, on vous traite de quoi? D'extrémisme. Parce que c'est eux qui sont dans le juste milieu. À tel point que dans certains pays, j'ai reçu la nouvelle, alors les gens du juste milieu là collaborent avec l'État pour contrecarrer le salafisme. Parce que le salafisme est l'extrémisme. Et se voyez. Donc ça aussi c'est une confusion entre les musulmans. Ils ne savent pas que c'est le salafisme qui est le juste milieu. Ils ne savent pas cela. Que la barbe la fait partie du juste milieu. Tout ce que le prophète a amené, tout le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du juste milieu. Non. Donc ils viennent, ils diminuent les choses en pensant que c'est le juste milieu. Ça c'est une condition et une confusion effectivement qui trouble aujourd'hui la sphère de la da'wah. Chers frères et sœurs, la cinquième confusion, vous savez aujourd'hui que nous sommes confrontés à un défi sécuritaire. Et malheureusement, hier même, nous venons d'apprendre qu'il y a 10 de nos vaillants gendarmes qui sont tombés quelque part, alors sous les balles du terrorisme. Et peut-être vous n'avez pas encore reçu les nouvelles, mais comme je suis toujours connecté là, j'ai reçu ça depuis hier nuit. Non. Alors donc, dans un contexte où effectivement la sécurité devient une denrée très très rare, on va te dire qu'à cause de cette sécurité-là, à cause de la cohésion sociale, alors il faut accepter tout. C'est-à-dire sacrifier le tawhid, par exemple, sur l'autel de la cohésion sociale, sur l'autel de la paix. Il y a ça. À cause de la paix, alors on va demander à certains de ne pas, c'est-à-dire, on va les amener, les appeler à fêter avec autrui, à fêter avec les non-musulmans. Et c'est ça qui conforte la cohésion sociale. C'est vrai, nous voulons la cohésion sociale. Surtout quand le contexte devient comme ça, alors vous voyez comment ce message-là peut passer très très facilement. Non. Il a même dit qu'à cause de la paix mondiale, alors que de fédérer les trois religions monothéistes. Fédérer les trois religions monothéistes pour sauvegarder la paix mondiale. J'ai fait une fois une vidéo sur Facebook après le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. J'ai fait la vidéo là pour dire aux Palestiniens de ne pas s'exposer à la mort. Parce que quand ils sortent, une fois de plus, ce sont des victimes musulmanes qui tombent. Je les ai appelés à garder la patience et à entreprendre les démarches que je vais vous donner aujourd'hui par la grâce d'Allah comme solution à ces confusions-là. Alors, je les ai promis effectivement que la victoire finale appartient à la vérité et à la piété. Car le prophète nous a dit qu'il y aura un combat final entre les musulmans et les juifs et qui sera remporté par les musulmans. Et tout d'un coup, il y a Google qui a interpellé la vigilance des juifs du monde qui nous ont appelé à dire que non, vous êtes des semeurs de troupes. Vous ne savez pas que le monde là tend vers la paix. Le monde est en train de construire aujourd'hui la paix. Alors, et vous, avec ces vidéos là, vous voulez entraîner les gens encore vers les désastres et les guerres. Je n'ai pas apporté ma réponse d'abord, mais j'envisage Inch'Allah un jour apporter une réponse appropriée. C'est dire que, alors, au nom de cette cohésion sociale et de la paix mondiale, on veut fédérer les religions. La religion fausse et la religion de vérité. Fédérer ces religions-là. Et vous voyez. Et même chez nous aussi, dans le contexte local, on veut aussi que musulmans et non-musulmans vivent en paix, même s'il faut sacrifier certaines choses. Et vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une confusion. À tel point qu'aujourd'hui, dans ce livre que je vous ai montré tantôt, la question, il a utilisé un terme là où il dit que le musulman est citoyen du monde. Le musulman est citoyen du monde, alors il ne peut pas se dépasser de ce grand contexte-là. Donc il faut vivre le contexte mondial. Non, vouloir s'isoler ou bien se distinguer peut apporter des préjudices aux musulmans. Donc c'est dire que alors, ils veulent qu'on sacrifie la vérité sur l'autel de la cohésion sociale et de la paix mondiale. Alors, sixième confusion. Septième. Quand on vous dit que l'union fait la force. Oui, c'est un slogan qui est beau. Sixième. L'union fait la force. Et c'est l'union, c'est grâce à l'union que l'Europe aujourd'hui peut contrecarrer la dictature américaine. C'est grâce à l'Union. Les États-Unis, même leur force, vient d'où leur union, l'URSS d'antan. Donc, c'est l'union qui fait la force. Et Allah nous a mis en garde contre la discorde et la division. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Alors, mais l'union, avec quel prix? C'est la question qu'on se pose. Dans ce livre-là, il a dit très clairement que toutes les tendances religieuses détiennent la vérité. Il faut accepter la pluralité dans l'union. Tout ce que les autres font là est vrai. Il faut les accepter pour consolider l'union des musulmans, car c'est l'union qui fait la force. Donc ça, c'est une confusion. C'est une confusion, malheureusement, alors qui va entraver un peu la da'wah qu'Allah nous assiste. Alors nous disons ici très clairement que l'union est vraie, mais l'union sacrée est que cette union-là se base sur des bases solides. Les bases d'abord du tawhid et de la sunna. C'est cette union-là qu'on veut. Car Allah ne regarde pas le nombre, mais regarde plutôt la qualité. C'est la qualité qui a remporté la victoire dans Surat al-Baqara, lorsque David a pu vaincre Goliath avec peu de moyens. C'est la qualité que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Malheureusement, aujourd'hui, on veut que les 60% des musulmans s'unissent et ferment les yeux sur les erreurs. Tu vois quelqu'un se prosterner devant une image, il faut se taire, à cause de l'union. Tu vois quelqu'un adorer un génie, il faut se taire, il faut le laisser faire ce qu'il fait. Parce qu'on veut tout justement s'unir pour avoir la force. Est-ce qu'une telle union peut avoir la force? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que Allah, c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la force. Anna al-quwwata lillahi jami'an. La force appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'appartient pas au nombre, mais c'est plutôt à la qualité. Naam. Donc, l'union fait la force est aussi une conclusion. Et ceux qui prêchent la vérité, alors on ne voudrait pas que vous apportez la désunion au sein de la ombre. Vous séparez les gens. Et se voit. Donc il y a cette confusion aujourd'hui. Alors, si on veut s'attaquer à la sunna, soit on dit qu'ils sont venus pour diviser les gens. Il y a même à la déclaration de quoi même, de la grande rencontre de Tchétchénie en Russie. Dans la déclaration finale, il a dit que la part des choses entre wahhabisme et sunna. Ils ont dit que la sunna unit les gens. Mais le wahhabisme vient diviser ceux qui étaient unis. C'est ce qui a été dit dans la déclaration finale. Donc c'est dire que vous divisez les gens. Donc ça c'est vraiment une confusion. Alors, parmi les confusions aussi, certainement, le rôle de la femme. Qu'est-ce que la femme doit occuper comme rôle au sein de la famille? Ça c'est vraiment une grande confusion entre nous-mêmes. C'est pas entre nous et les autres, hein, entre les musulmans. Voilà. J'ai été à Serenera. C'est Serenera, oui. Peut-être qu'ils sont là. Lors d'un prêche à la mosquée, en français aussi, même si je ne maîtrise pas le français. Alors, j'ai dit que la femme, effectivement, sa place est à la maison, rester à la maison. Lorsque un intellectuel, quand on dit intellectuel, il a dit que, mais Umm Amara qui participait dans la compétition guerrière, il faisait la guerre, il avait son arme, elle avait son arme. On a pris un seul exemple pour en faire une généralité. Donc c'est dire que ça c'est une condition. Nos femmes là, est-ce que la femme musulmane doit contribuer au développement du pays? Oui. La réponse est oui. Mais c'est le comment maintenant qui cause problème. Le comment. Alors, si le contexte est défavorable à son travail, favorable ou défavorable, il y en a qui disent non. La femme aussi doit, c'est-à-dire, assumer sa tâche. Parce qu'elle est, à chaque fois, elle est en nombre, elle bat les hommes. Naam. Numériquement, les femmes nous dépassent. Donc, priver la femme des activités hors la maison, c'est paralyser totalement, c'est-à-dire une grande partie de la population. Donc ces gens-là soutiennent effectivement que la femme doit s'activer, elle doit faire la police, elle doit être gendarme, elle doit s'habiller en militaire, elle doit tout faire, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Non. Donc il y a des musulmans qui soutiennent cela, à tel point que dans une structure fêtière, lors d'une réunion, lorsque on a distingué une de nos sœurs là, lors de la rencontre, la visite de Macron à Ouagadougou, il y a une sœur qui s'est distinguée avec des questions et des choses qu'elle a émises au président français. Elle a été distinguée. Et quelqu'un parmi nous a dit effectivement qu'il faut encourager les sœurs là à mieux s'autonomiser. C'est-à-dire encourager les sœurs à s'autonomiser, à se détacher, s'autonomiser de leur mari, d'avoir leur autonomie. Qu'est-ce que ça vraiment qui peut apporter le vrai progrès à ce pays-là? Donc vous voyez des musulmans qui pensent comme ça. Qui pensent que c'est le slogan occidental qui les a envahis. Donc c'est vraiment une problématique, une confusion. Non, le rôle de la femme. Donc Umm Amara, effectivement, a participé à une guerre. Ma réponse fut, effectivement, lorsque il y a une confusion au sein de l'armée. Parce que dans toute l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que l'armée est subdivisée en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle Al-Muqaddima. Ça, c'est l'avant-garde. Il y a As-Sakh. Ça, c'est l'arrière. Al-Maimana. Ça, c'est les militaires de droite. Ou Al-Maisara, les militaires qui sont à gauche. Voici les cinq parties du corps de l'armée prophétique lorsqu'ils partent en compétition. Alors, où est la place de la femme ici? La femme était derrière. Elle ne faisait que recevoir les blessés et préparer à manger et donner à boire. Ça, c'était son rôle. Donc, c'était un rôle vraiment prépondérant que les gens aujourd'hui veulent délaisser pour encourager la femme à sortir comme l'homme, alors pour construire le dehors. Alors, qui va laisser on laisse en ce moment-là les maisons pour qui? Donc ce fut ma réponse. Alors lorsqu'il y a la débandade, il y a le sauve qui peut, alors en ce moment-là, la femme peut intervenir. Le cas de Oumou Amara peut s'expliquer ainsi. Oumou Amara, il y a même Oumou Souleym al-Ansariya dans la bataille de Hunayn, qui a pris sa sabre, sabre comme ça, alors qui a dit que si je, un mécréant prochainement, je vais fendre son ventre. Il y a des cas isolés. Parce qu'en ce moment-là aussi, les compagnons avaient fui et laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains seulement. Quand il y a la débandade, il y a, c'est-à-dire, il y a la confusion au sein de l'armée, en ce moment-là, chacun se cherche. Chacun pour soi et Dieu pour tous. En ce moment, la femme peut prendre son arme pour se défendre. Même dans la bataille de Al-Ahzab, les coalisés, les femmes se sont défendues. Mais on ne prend pas ça pour généraliser, pour permettre à la femme musulmane de devenir militaire, de porter les choses. Donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire, mal expliquer les textes. Donc il y a ça, le rôle de la femme musulmane. Ça cause vraiment problème aujourd'hui au sein de la communauté. Alors, huitième confusion. Nous et les autres. Nous et les autres. Quand on dit que le musulman est citoyen du monde, alors quelle est sa relation avec les autres? Non. Et dans la fatwa, ceux qui autorisent aux musulmans de fêter avec les non-musulmans, dans leur fatwa, alors ils utilisent ce verset-là. Et c'est la fatwa des frères musulmans, en général. Ils s'appuient sur ce verset. La yanhaakum Allah. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous interdit pas pour ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et ne vous ont pas chassé de votre demeure d'être quoi? أن تبروهم, d'être bienfaisant envers eux. وتقسطوا إليهم, Al-Qisto, d'être aussi équitable. L'équité et la bienfaisance. La bienfaisance, ça a été défini dans un autre hadith où, c'est-à-dire, une femme de Abu Sufyan qui était venue à Médine, il y a la femme du prophète qui a demandé au prophète si elle pouvait faire de la bienfaisance au profit de sa mère, qui est encore mécréante. Le prophète a dit oui. Donc il s'appuie sur ça. Effectivement, il y a ce hadith-là qui peut donner plus d'explications à ce verset. C'est-à-dire que entre nous et musulmans, il y a la bienfaisance. Entre nous et non-musulmans aussi, il y a la bienfaisance. Ça, ce n'est pas interdit. Alors, ça, c'est l'aumône. L'aumône, alors, peut être donné à qui que ce soit. Qu'il soit musulman, qu'il ne soit pas musulman. Mais l'aumône légale, ils ne font pas la part des choses. La zakat, par exemple, n'est destinée qu'aux musulmans. Il faut faire la part des choses. Donc, ils prennent ce verset-là, ils le généralisent. Il faut dire que la bienfaisance ici consiste à faire du bien à eux. Voilà. Et à la qiste, d'être équitable avec eux, dans les jugements. Donc, l'équité et la bienfaisance. Ce sont ces deux-là qui sont recommandées dans ce verset. Alors, nous avons un autre verset. Un autre verset qui dit Adoubla Mishnah Najib, La tajidu qawman, yuminuna billah wa liyawmil akhir. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا سو فيرسي لا لي دو فيرسي سورة المجادلة و سورة الممتحنة. Dans ce verset là, ils oublient qu'il y a ce verset. Tu ne trouveras pas une communauté qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier qui aime, voyez, l'amour, qui aime ceux qui contestent Allah subhanahu wa ta'ala, qui contredisent Allah subhanahu wa ta'ala. يوادون الود. Wadhina, c'est l'amour, avoir de l'affection, de l'amour pour ces gens-là. Manhadar, walokanu abahum, fustil des enfants, ou ikhwanahum, leurs frères, ou ashiratahum, leur famille, ou laïka, ces gens-là, Allah a prescrit la lumière dans leur cœur. Donc, chers frères et sœurs, voici deux versets, alors qu'ils ne se contredisent pas, mais qui s'expliquent. Ça veut dire tout simplement, entre nous et les musulmans, il y a l'équité, il y a la bienfaisance, sans pourtant les copier dans ce qu'ils font. Sans pourtant y participer, alors participer dans leurs erreurs. Là, comme dit Nukum, voilà dit. Mais c'est devenu une confusion. Donc certains utilisent ça pour appeler les gens à fêter la Noël et à fêter la Saint-Sylvestre. Donc entre nous et les autres, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'adversité. Il y a l'entraide, il y a la cohésion sociale, sauf en matière de religion. Dans la religion, Allah nous dit, lakum dinukum. Il part à l'église, tu pars à la mosquée. Il fait sa fête, tu fais ta fête. En ce moment-là, il faut faire la part des choses. Mais malheureusement, on a pris les versets, on a confus les versets-là jusqu'à ce que certains n'arrivent pas à s'en sortir. Neuvièmement, une autre confusion, le respect d'autrui. Il faut respecter les deux parents. Il faut respecter le président de la République, le maire, l'autorité. Il faut respecter la personne âgée, avancée en âge. Il faut respecter le mari. Le respect. Donc Satan est venu ici aussi susciter une grande confusion au sein de la commune. Il faut respecter le professeur. Quand il rentre seulement, vous vous levez pour lui. Et ce voyez. Quand la femme donne de la nourriture à son mari, elle s'agenouille. Il faut respecter les parents. À tel point, c'est pas que toi qui m'as dit qu'un imam a dit à une femme. Qu'est-ce qu'il a dit là? Dans votre quartier. La femme, qu'est-ce que la femme voulait? Elle ne voulait pas travailler de ce quoi? Elle veut sortir, apprendre la religion. Voilà. Donc, sois témoin. Il faut être témoin. Bismillah. Je te donne le micro. Bismillah. Non, mais c'est Raphaël. Je me suis rappelé. C'est lui qui m'a dit. J'ai fait un prêche l'autre jour à sa présence. Il a dit vraiment, il va aller montrer à l'imam là. Un imam, hein. Qu'est-ce qu'il a dit?
Bon, c'est vrai. Bon, il y a le mari qui est venu voir l'imam.
Le mari d'une femme, voilà, qui est venu voir un imam.
Demander comment ça va avec les études des femmes. Il dit ça va, ça va. Mais et que sa femme, comment ça va pour sa femme? Il dit que ça va, que sa femme.
Le prof, le micro.
Que sa femme libyenne, qu'elle a avancé même. Donc c'est en même temps, il a dit au Liban que lui avait été dit sa femme de venir lire. Que pourquoi elle a pas compris? Ah, lui a dit que non, lui, il ne peut pas. Il n'a pas parlé avec sa femme. Donc, c'est pour ça qu'il est parti à la maison, il a dit que la femme de lui lui lire.
Les parents de la femme aussi n'ont pas intervenu, ils n'ont pas dit de
non, les parents n'ont pas.
Donc il y a cet aspect-là. Et souvent des questions nous parviennent. On oblige la femme à se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Parce que le clan, la famille, sans toi avoir le corps de ton église, tu quittes ce mari-là, ne viens plus chez nous. Et elle est obligée maintenant de suivre les penchants de la grande famille, au détriment d'elle. Il y a ça aussi. Donc le respect a outrepassé ses limites. Le respect d'autrui. Non, il ne faut pas se lever pour quelqu'un, fût-il une autorité, sauf dans les cas spécifiques. On doit respecter les deux parents, mais pas dans le la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie aux parents, mais pas dans la désobéissance. Voilà, donc ça c'est devenu une confusion. À tel point qu'on dit, on traite les sunnites et les soi-disant wahhabiyas de non-respect envers les personnes âgées, envers les cheikhs, envers les parents, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, alors, vous voulez, alors, faire le respect là dans ses limites. Les limites enseignées. Tandis que eux, alors, la confusion les a emportés dans ses flots. Donc le respect d'autrui constitue aujourd'hui, c'est-à-dire apporte aujourd'hui une grande confusion au sein des musulmans eux-mêmes. Il reste 5 minutes. Donc nous allons terminer par la dernière confusion qui est la 10e. Il s'agit ici de la langue arabe. Les confusions sont nombreuses, hein? Elles sont nombreuses. Il fallait organiser avant qu'on ne vienne. Une autre confusion, la dernière confusion. Alors, pourquoi ne pas permettre aux musulmans de prier dans les langues locales? Pourquoi obliger les gens à prier en arabe alors qu'ils ne comprennent pas l'arabe? Ça, c'est vraiment une confusion qui a poussé certains à quitter l'islam. Dans la semaine, j'ai reçu la visite d'un chose, quelqu'un qui porte le nom musulman. Et il est son tuteur, même qui s'appelle aussi Abdissalam. Mais les deux là ne sont plus musulmans. Il est venu pour que je fasse du'a pour lui, pour qu'il réussisse dans les concours. Il dit, ah, ma condition c'est quoi? D'abord que tu sois musulman. Donc quand j'ai fait les enquêtes, j'ai trouvé effectivement qu'il est devenu chrétien. Il est chrétien, même étant gardant toujours le nom musulman. Voilà. Qu'est-ce que la cause? Parmi les causes, il dit que voilà, parce que moi j'ai pris derrière l'imam, je ne comprends pas ce qu'il dit. La langue arabe. C'est une confusion. Je ne comprends pas ce que l'imam dit. Alors que dans l'église, je comprends ce qu'ils disent. Je suis en communion complète avec l'enseignement de l'église. Par contre, quand je suis dans les mosquées, derrière les imams, sauf dans les séances de tafsir, je ne comprends pas ce que Dieu dit. Ça, c'est une confusion. Avant cela, il y a un voisin aussi qui est venu me voir, que son frère a quitté l'islam. Il a quitté l'islam. La raison principale, c'est quoi? Parce que depuis qu'il est né, l'islam là, il ne comprend pas ce que Dieu dit. Il prie avec les imams, il est là, il tourne comme ça, mais il ne connaît même pas le sucre même, l'esprit même de cette religion. Il ne comprend rien. Parce qu'il n'est pas arabe. Donc il était mieux alors, d'autoriser la traduction, c'est-à-dire des livres, la traduction même de la prière dans les langues locales, parce que effectivement, les fidèles qui ne sont pas arabes soient mieux en communion avec ça. Bon, ça, c'est vraiment une confusion. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on traduise aujourd'hui la prière en langue morée, en langue de là? Alors, pour que les fidèles comprennent, c'est une confusion. À tel point qu'à Bamako, actuellement, il y a un grand prêcheur qui autorise à ses fidèles de prier en chose dans les langues locales. Et cette confusion-là. Alors, effectivement, ma réponse, j'ai dit à l'homme-là, la faute, c'est pas la langue arabe, mais la faute, c'est ton père. C'est ton père qui ne t'a pas permis de comprendre l'arabe. Sinon, nous, on veut garder l'intégralité de notre religion. Nous voulons toujours une religion intègre. Une religion qui garde toujours les sources au fil des temps. Même 10 000 ans après, que la source reste toujours intarissable. C'est ça la sagesse visée ici. Si on avait autorisé la traduction du Coran dans les langues locales, j'aurais dit aujourd'hui beaucoup plusieurs versions, plusieurs traductions. Comme c'est le cas du christianisme aujourd'hui. La version allemande diffère souvent de la version française, qui est différente de la version anglaise, ainsi de suite. Donc, pour l'intérêt de notre religion, c'est d'apprendre l'arabe. Alors, l'apprentissage de l'arabe aussi n'est pas un problème. Quand l'imam Ali même nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Ta'allamu al-arabiyyata wa allimuha an-nas. Apprenez l'arabe et enseignez-la aux autres. Ibn Taymiyyah nous dit que ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. La compréhension de la religion est une obligation sur tous les musulmans. Alors qu'il est impossible de comprendre la religion sans passer par l'arabe. Donc il conclut en disant que la traduction de l'arabe en russe est une obligation pour tous les musulmans. Ouais. Alors si aujourd'hui nous parlons français alors que nous ne sommes pas des français, jusqu'à ce que le vice-recteur de l'université de Koudougou, l'université Gondarva Zongo, a pris ce prix continental aux États-Unis cette année. C'est pas en morée, c'est en français, en anglais, en français. Il a écrit cette thèse. Le Burkinabé est arrivé jusqu'à ce niveau. Joseph Kizerbo, le premier agrégé en histoire dans toute l'Afrique francophone, c'est dire que quand il y a la volonté, il y a la possibilité. Vouloir, c'est pouvoir. Alors, mais quand on n'a pas la volonté de comprendre sa religion maintenant, et on dit que c'est la faute et incombe à la religion, non, c'est ta faute à toi et à tes parents. Donc il y a cette confusion-là qui fait qu'aujourd'hui, alors vraiment, il y en a même, celui qui a édité ce livre-là, vous allez voir peut-être qu'il ne peut rien dire en arabe. Sinon, je l'aurais appelé pour qu'il lui montre des documents où effectivement il allait comprendre beaucoup de salafisme. Parce que là, il s'est misé sur les écrits des adversaires du salafisme. Alors, si tu lis l'adversaire de quelqu'un, tu deviens adversaire à son mot. Parce qu'il ne sera jamais modéré dans ses analyses. Donc, voici, grosso modo, chers frères et sœurs, c'est dit confusion. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musulmans, mais souvent, il faut s'imprégner, il faut avoir vraiment de la sagesse. Alors, pour ne pas répondre à certaines injures, il faut avoir aussi le sang-froid pour se maîtriser devant certaines situations. Parce que nous subissons aujourd'hui beaucoup de provocations à cause de ces confusions-là. Alors,
Comment préserver sa religion? Voici cinq choses. Alors, qui connaît ce hadith-là? Badiru bil a'mali. Ça, c'est un hadith de Abu Huraira. Je trouve dans Muslim. Badiru bil a'mali. À chaque fois, le prophète nous a dit qu'il y aura des troubles. Après lui, il y aura des troubles. Et si le paix se pose entre les musulmans, il ne se lèvera jamais jusqu'à la fin des temps. Il a waqa baynahum as-sayf falan yurfa ila qiyam as-sa'. C'est-à-dire que les troubles ne cesseront de s'accroître. Non. Alors, la solution que le prophète nous a donnée, c'est quoi? Lorsqu'il dit Badiru, empressez-vous. Badiru bil a'mal fitanan, taqita al-layl al-mudlim. Badiru bil a'mal. Il n'a pas dit qu'en temps de trouble, il faut chercher la communion, l'union, il faut chercher le trouble. Non, non, non. C'est d'abord, Badiru bil a'mal. Poser les bonnes œuvres. Non, bil a'mal fitanan. Badiru, yani devancer les troubles avec de bonnes œuvres. C'est-à-dire si les troubles bien trouvés qui étaient déjà bien posés dans les bonnes œuvres, alors ça te dépasse. C'est pour qu'il a dit qu'il entrait Christ. Celui qui observe ce zikr-là, la lecture des débuts, des tout débuts de la sourate Al-Kahf sera préservée de la tentation de l'antéchrist. C'est-à-dire que voilà, il faut avancer quelque chose. Quand un trouble arrive, alors il faut avancer quelque chose. Il faut poser des bons actes pour être dans la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Badiru bil a'mal fitanan. Ça, c'est des troubles qui seront nombreux. Taqita al-layl al-muslim. Des troubles où il y aura beaucoup de confusion. Beaucoup d'hommes dans nous. Naam. Yusbihu rajul mu'mina, yumsi kafiran, yumsi mu'mina, yusbihu kafiran, yabi'u dinahu, bi'aradi min ad-dunya. Donc, ça, c'est effectivement les troubles qui font effectivement quitter l'homme de sa religion. Alors, donc, le prophète dans ce hadith-là nous dit alors, de dévancer les troubles-là avec les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, à savoir, premièrement, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour éviter les troubles, c'est la quête du savoir. C'est apprendre sa religion. Apprendre sa religion. J'invite tous ceux qui sont contre le salafisme de venir nous consulter, de ne même pas nous les écouter. Nous allons leur donner tout simplement les livres, les documents du salafisme. Kitab al-Tawhid, Sharh Kitab al-Tawhid, Kitab al-Kada, Risalat al-Kada, Kada, les livres de Ibn Taymiyyah qui sont édités, qui sont là. Qu'ils lisent lui-même. Chers frères, dans un passage, une petite manuscrit attribué à l'imam Ahmad. Il a dit quelque part, à la fin même du manuscrit, que quand un musulman est attaqué, il a la légitime défense. Non, il peut se défendre légitimement. Mais il n'a pas le droit de poursuite. Est-ce que vous comprenez cela? L'agresseur, s'il quitte sa maison, il s'enfuit. C'est à l'autorité centrale maintenant le droit de poursuivre cet agresseur. Ce n'est pas à toi. C'est l'autorité centrale. Ta maison t'appartient, mais le dehors appartient à qui? À l'autorité centrale. Jusqu'à tel point, dans le salafisme, il est bien défini les limites de l'homme où il peut se défendre. Mais quand il s'agit de défense externe, ça appartient au pouvoir central. Jusqu'à ce point. C'est dire que les gens ne méconnaissent le salafisme. Ils méconnaissent la sunna. Non. Dans les réseaux sociaux, souvent, on balance des choses comme ça. On balance. Il y a en Turquie quelqu'un qui a sorti une vidéo dire que assimiler le salafisme là, ou quoi, au chiisme, au khawarij, au quoi, quoi, quoi. Donc tout de suite, on a vu des élèves, des fonctionnaires de droit français ici, qui ont balancé ça partout, dans les réseaux sociaux, alors pour une large diffusion. Et je voyais. J'ai dit, mais j'ai répondu en disant que non, cet homme-là, il connaît tout, sauf le salafisme. Je le défie. S'il veut effectivement connaître le succès du salafisme, qu'il vienne lui-même. Il y a les documents qui sont là. Il va changer d'avis. Nous tous, nous étions comme ça. Nous étions victimes de ces campagnes de désinformation. C'est la curiosité qui nous a poussé à apprendre nous-mêmes pour comprendre effectivement que c'était cette campagne-là. Donc, je lance ce défi. Et tout le monde, celui qui est contre le salafisme, qui est contre la sunna, qu'il vienne. Il vient tout simplement. Nous allons lui jeter les jalons, les bases, les documents, tout simplement pour qu'il s'imprègne et prendre finalement une position contraire. Non. Donc la connaissance. La connaissance, chers frères et sœurs. Car Allah nous a commencé par la connaissance. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Alors pour fendre les ténèbres, la grande ténèbre là, il faut chercher la connaissance. Na'am. Allahu akbar kabira. Inna sanulqi alayka qawla thaqila. Inna nashi'ata al-layli ashadu watan wa aqwamu qila. Donc la deuxième position maintenant, après la connaissance, il faut l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'dhu bil a'mal. Celui qui sort pour chercher la connaissance, il fait le jihad. Dieu lui ouvre une porte vers le paradis. Man salaka tariqan yaftabisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi. Dieu lui facilite une porte vers le paradis. C'est pas seulement d'ouvrir la porte, la facilitation. Allahu akbar kabira. Donc, la quête du savoir, c'est ce qui manque aux gens aujourd'hui. Beaucoup lisent en français, ils lisent en anglais, mais ils ne lisent pas en arabe. Venez tout simplement pour que je vous donne les 5 volumes de Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. Le début et la fin. Ça, c'est le vrai livre d'histoire que le musulman doit, tout musulman doit lire. Malheureusement. Les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas le nom de ce livre-là. Al-Bidaya, le début et la fin. Tout est détaillé dans ce livre-là. Alors, chaque année, avec ses décès, avec ses naissances, avec ses miracles, dans le monde musulman, jusqu'à la fin du livre. C'est ça. Les gens ne connaissent pas. Voilà, on est là. Alors, méconnaître la da'wa, alors va entraîner beaucoup maintenant à dire du tout sur ça. Sinon, nous connaissons des chercheurs comme Tahoussé qui n'est pas insolite, Al-Aqad qui n'est pas insolite, de grands chercheurs, même des occidentaux, alors qu'ils font l'éloge de Cheikh Mohamed Ibn Al-Wahhab, de Cheikh Ibn Taymiyyah, qui disent effectivement qu'ils n'ont apporté qu'une réforme à une religion qui sombrait déjà, qui était agonisante. Donc ceux-là sont venus sur le coup apporter la vraie réponse, la vraie réforme. Donc voici deux réponses. Premièrement, la quête du savoir. Deuxièmement, al-ibada, surtout la prière nocturne. Multiplier les prières, les invocations. Troisièmement, al-da'wa, propager la da'wa, comme ce que nous sommes en train de faire comme ça. Non, si tu as la connaissance, si tu as le savoir et tu as la spiritualité très avancé, lève-toi maintenant alors pour faire le partage avec les autres, pour montrer effectivement cette vérité-là aux gens, à da'wa. Mais la da'wa aussi, c'est le sens global, que les médecins soient da'ya dans son domaine, que les militaires aussi soient da'ya dans son domaine. Hein? Les du'as sont là, mais que tout le monde, tout et chacun se sent dans le besoin de prouver cette religion-là selon ses moyens. Quatrièmement, à somme. La patience. Les autres nous insultent, n'insultez personne. Les autres nous font du mal. Ne répondez pas le mal par le mal. Vous soyez toujours patient. Que c'est la patience qui est l'eau qui va arroser la plante de la dawa. Ça a toujours été comme ça. Votre frère Ibn Taymiyyah est mort où? Qui peut me répondre à cette question? Ibn Taymiyyah est mort où? Comment il est mort? Il est mort en détention, à cause de la sunna. Mais aujourd'hui, il est le plus lu dans toutes les universités du monde. C'est à cause de la sunna qu'il est. Il n'a pas répondu à la violence par la violence. Non, non, non. Il a répondu à la violence par la patience. À sabr. Inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Donc, les sunnites, depuis que la sunna a commencé au Burkina Faso ici, les sunnites ne font que subir. Les mosquées sont cassées, confisquées. Il y en a qui ont été exécutés sommairement, qui ont été assassinés, et ça continue toujours. Il y en a qui ont perdu leur force. Mais dites-moi un seul jour ce que le sunnite a fait comme riposte face à la violence. Je ne sais pas dans mon pays en tout cas. Et donc, continuez toujours avec cette patience-là, à sabre. Enfin, à taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là maintenant, je vais lire des versets. Wal asri, innal insana lafi khusr. Je ne vais pas commenter le verset, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, tant pis pour vous. Wal asri, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bil haqqi. Ça, c'est la da'wa. Wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar kabira. La tublawunna. Très certainement, vous serez éprouvés. Avec des confusions, beaucoup de confusions. Fiez à moi les coups. Dans vos avoirs, votre richesse. Non. Tu te lèves avec la barbe, tu veux de l'air quelque part, tu dis que non, non, non. Moi, mon argent ne se donne pas à un barbier. Tout de suite, il y a la censure contre toi. Il y a l'embargo. Et ce que vous voyez, la tuba ou nafi amwalikum wa anfusikum, vos personnes, vos âmes, on va vous tuer. Voilà, t'as ma'un, vous allez entendre. Voilà, t'as ma'un, vous allez entendre. Kitaba, wa mushir, la la la. Min qablikum, wa lezina ashraku, adhan kathira. Wa lezina ashraku. Vous allez entendre des propos malsains de ceux qui ont reçu le livre avant vous, les chrétiens et les juifs. Des confusions. L'islam, c'est le terrorisme. Les musulmans n'aiment pas la paix. Des confusions. Non. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, leurs paroles. La solution, c'est quoi? Et soyez patients. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chères sœurs, voici quelques confusions, alors que le temps n'a pas permis de bien détailler, à votre intention, pour vous dire effectivement que ça ne finira jamais. Mais comme Allah a promis, effectivement, qu'il y aura toujours, la droiture va toujours exister. Le bon sens va toujours exister. Il y aura toujours la da'wa. Allah va croire. À entendre même que vous organisez un séminaire ici, ça c'est déjà une protection divine. Ça c'est une protection divine. Voir que nous circulons comme ça, sans garde-corps. Moi, quand je quitte le matin comme ça pour la mosquée, je regarde de gauche à droite et je dis, ah, toi, tu n'es pas gardé par personne. Alors que ce que Didi là, dans les réseaux sociaux, ça part pas partout. L'autre jour, j'ai sorti une vidéo qui a pour thème où ira Bush après sa mort. Quelqu'un est venu me dire que, mais ça, c'est dangereux. Ça. Où ira Bush après sa mort? Il faut faire attention. Donc quand on marche, quand Kingdom fait ses voyages-là, nocturnes souvent, sans garde-corps, il a la protection divine. Donc ne créez rien. Il n'y a pas de crainte. Il y aura ces confusions. Il y aura des épreuves. C'est à travers ces épreuves-là qu'on peut distinguer le faux du vrai. La croyance parfaite et l'hypocrisie. C'est à travers ces épreuves-là. Alors, si les choses étaient faciles, regardez aujourd'hui notre frère du Sénégal, je viens d'apprendre qu'il a des complications. Parce qu'il a seulement prêché que le vrai musulman ne doit pas participer à sa festivité chrétienne. Celui a voulu quoi? Des critiques partout. Parce que j'ai entendu des gens dire au Sénégal qu'il faut que l'État stoppe ceux qui veulent diviser la société sénégalaise. Diviser, c'est quoi? C'est quand tu appelles d'autres à observer strictement leur religion et à se distinguer des autres. Tout en maintenant quoi? La cohésion sociale. C'est pourquoi dans ces fêtes-là, moi je ne participe pas. Mais le lendemain de la fête, je vais acheter des biscuits pour mes voisins chrétiens. C'est comme ça que je fais. Je pars à la supermarché, je dis voilà, biscuits plus chers, c'est où? On me montre ça. 5 000 francs, 10 000 francs. J'achète ça pour mes voisins qui sont chrétiens. Pour qu'ils sachent effectivement, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'adversité. C'est seulement, il n'y a pas de participation de ma part dans ces festivités qui sont quoi? D'origine païenne. C'est tout ce qu'il y a dans l'affaire. Donc le problème, il a des problèmes aujourd'hui au Sénégal. C'est-à-dire que nous tous, nous aussi, c'est la même chose, mais grâce à Dieu, notre pays ici est un pays de Burkini, vraiment. C'est le pays des hommes. Des hommes quoi? Des hommes intègres. Ce qui fait que nous, entre nous et les autorités, en souvent ils entendent des choses contre nous. La crise de 8 ans, tout de suite. Les réseaux sociaux, le maire, le quoi. On a partout pour monter les tensions. Contre qui? Contre Adao. Mais le sang frais de Burkinabé, on a toujours été comme ça. Qu'à la face qu'on veut, on garde toujours cette tendance-là. Il n'y a pas de haine. Nous sommes tous fils de pays là. Chacun doit contribuer avec sa pierre de construction. Mais chacun doit connaître la limite de l'autre. C'est dans le respect strict des limites de l'autre, effectivement, qu'on peut bien mieux construire ce pays-là. Sur ce, j'ai dit Astaghfirullah wa atubu ilayhi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah.
Nous arrivons donc à la fin de cette conférence. Nous remercions grandement Dr. Amas Wadogo pour cette brillante intervention. Alors, il est intervenu autour donc du thème central, la confusion contemporaine au sein des musulmans, comment préserver sa religion. Donc, dans son intervention, Dr. A mentionné 10 points alors, qui sont des sources de confusion, qu'il nous a expliqué. Nous allons rapidement citer les points qu'il a cités, Inch'Allah. Il a cité premièrement le slogan de le texte et le contexte, la confusion qui se trouve autour de cela et qui nous a clarifié cela. Deuxièmement, la notion de mécréance qui est mentionnée dans le Coran et qui a été extrapolée par certains pour rendre tout le monde mécréant. Donc c'est une confusion que le docteur également nous a clarifiée. Troisièmement, le laxisme. Le laxisme donc, dans la religion. D'accord. Donc le docteur nous a clarifié qu'effectivement, il y a une confusion qui a été donc développée autour de cela, en parlant donc des cas des musulmans non pratiquants, ce qui se dit des musulmans non pratiquants, qui ne pratiquent pas la religion et qui se font appeler musulmans. Quatrièmement, la notion du juste milieu, le fait de dire que la religion est le juste milieu, certains ont utilisé le terme de juste milieu pour amener des gens dans des confusions et les égarer avec cela. Donc, docteur nous a expliqué que le juste milieu, c'est avec cela que l'islam est venu et que le salafisme d'ailleurs n'est que le juste milieu. Cinquièmement, alors du fait donc du climat d'insécurité dans lequel nous vivons, il y a une confusion qui a été développée autour donc du thème de la cohésion sociale. La cohésion sociale, alors donc il y a des confusions qui ont été développées autour de cela pour amener les gens également à contredire alors la religion. Et nous avons reçu également des clarifications du docteur sur cela. Sixièmement, l'unité des musulmans. Le fait que les musulmans doivent être unis, il y a également des confusions qui ont été développées par certains musulmans qui prônent l'union, mais l'union dans la diversité, et non autour du Coran et la Sunna de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, la confusion autour donc, du rôle de la femme en islam. Donc certains ont développé donc des idéologies qui prônent donc le travail de la femme sans condition, que la femme musulmane doit participer au développement du pays, etc. etc. Donc il y a des confusions autour de cela également, que le docteur nous a apporté des éléments de clarification autour de cela. Huitième point, la confusion autour donc du terme nous et les autres, donc la cohabitation donc avec les autres. Donc certains sont appuyés sur des versets du Coran, un verset du Coran précisément, pour amener les gens à contredire les bases de l'islam. Donc le docteur nous a expliqué les limites donc, de ce verset du Coran et ce verset qui est explicité par un verset qui nous a cité, que nous avons compris par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Neuvième et avant-dernier point, le respect d'autrui. Le respect d'autrui. Le fait qu'on doit respecter l'autrui. Alors, il y a également des confusions qui ont été développées donc, à ce niveau. Nous avons également reçu des clarifications au docteur. Et pour finir, avec les 10 éléments, la confusion autour donc, de la langue arabe. La langue arabe, où des gens prônent le fait que, voilà, si on ne comprend pas l'arabe, alors il n'y a pas, de bénéfice à ce que nous pratiquions l'islam, parce que nous ne comprenons pas ce qui est dit à l'intérieur. Donc, il y a certaines confusions. Et que le docteur également nous a montré l'importance de la langue arabe et que sans cette langue arabe-là, on ne pourrait pas préserver la religion jusqu'à ce jour. La religion qui a pu être demeurée depuis donc des siècles et des siècles jusqu'à ce jour, c'est grâce effectivement à cette langue-là et que nous devons apprendre. La faute n'est pas à la langue arabe, mais la faute est à nous-mêmes, nous qui n'avons pas appris cette langue-là pour comprendre la religion. Donc voilà les 10 éléments qu'il a mentionnés. Et pour finir, il nous a donné 5 éléments qui vont nous permettre de préserver notre religion dans toute cette confusion. Premièrement, il a cité l'apprentissage de la religion. Apprendre la religion, le tawhid. C'est avec ça qu'Inch'Allah, nous allons arriver à préserver notre religion. Deuxièmement, l'adoration véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend la religion et on adore Allah ta'ala comme il se doit. Troisièmement, propager la da'wah. Propager donc la da'wah, appeler les gens à l'islam. Avec ce que nous avons appris, ensuite, patienter face aux épreuves au tort que nous allons subir dans toutes ces confusions-là, patienter, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour finir, de s'armer de la crème d'Allah ta'ala, à taqwa, qui va nous permettre de résister face à toutes ces confusions-là et de sortir avec notre religion entre nous-mêmes. Donc voilà donc brièvement ce que nous avons reçu ce matin comme communication. Donc avec le docteur Amar Sardogo, que nous remercions pour cette conférence-là et ces éclaircissements qu'il nous a apportés. Alors, nous avions prévu de prendre des questions, malheureusement.
Deux ou trois.
On peut prendre des questions.
Voilà, on quitte à midi.
Ok.
10 minutes.
D'accord, donc nous passons donc à la phase des questions. On prend deux questions, parce qu'à la prière de Djouma qui est là, donc ne pas donc déborder le chat. Donc si dans l'auditoire il y a des gens qui posent des questions, on va prendre deux questions sur le même chat. Tafadhal. Une question ici. Ok, donc on a deux questions, c'est suffisant. Non.
Le livre en question qu'il a dit que on a déjà présenté le présentiel. C'est l'alimentaire, ça va aussi. Radio islamique, elle m'a
parlé.
Concernant le livre qu'il a dit, nous, on ne connaît pas. Le livre, il n'y a pas ça en français, c'est uniquement là. Le livre qu'on a dit, on a mis d'ailleurs.
Le bidaï,
il n'y a pas ça en français.
Non, non, ça n'a pas. Qui est où? Pour ne pas prendre.
Non, non, on a l'école.
Qui était l'école?
Oui, il a donné aussi en français, c'est possible. Ok.
Voilà, donc là, c'est un plan encore là. Il demande à ce qu'on traduise le livre, la vidéo en arabe, 2004, en arabe et en français. Alors que le frère même sait que traduire, c'est
trahir.
C'est trahir. Ça, c'est la première question que je pense. Traduire, c'est trahir. Et second lot, c'est volumineux. C'est volumineux. Jusqu'à 5-6 volumes. Et chaque volume comporte peut-être 700 pages.
Allah.
Qui peut traduire cela?
Ah, c'est des années.
Et j'ai vu un maghrébin essayer de traduire Tafsir Ibn Kathir. D'après lui, il est mort avant de parachever son travail.
Allah.
C'est trop. Et quand on te dit le résumé de Bukhari, c'est la passion de l'auteur, là, le traducteur. C'est les parties qui l'intéressent là qui va résumer pour toi. J'ai vu des résumés de Bukhari effectivement qui ne m'ont pas plu. J'ai vu une traduction aussi du Coran où lorsque Allah dit Yomanatwi Sama Akataye Sijiri le Kutub, le traducteur en a fait impossibilité aux musulmans de prendre une secrétaire. Il a traduit ça quoi? Une secrétaire qui prie ses livres le soir. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le monde attend, vous attendez pour que vous appreniez là. Les livres sont là. Ibn Kathir a pris son temps pour éditer son livre, à votre intention. Ce ne sont pas les génies qui vont venir lire ces livres-là, c'est vous. Donc, mobilisez-vous. Ah, da, 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 ja, ah, ha, un mois c'est tout à fait. I, deux mois. Ou, tout, tout. Dans l'année, tu peux déjà formuler des mots. Tu t'assois. Tu veux qu'on te traduise ces livres-là. On n'a pas ce temps. Ça, c'est un. Et secondo, aujourd'hui même, la grande tendance mondiale vise à faire quoi? À étouffer. À écarter carrément ces livres-là. De l'existence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les grandes universités, à midi, comme à Riyad, partout dans les universités saoudiennes, il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui au sein de l'administration des États-Unis qui disent effectivement que la seule chose qui reste aujourd'hui qui menace l'avenir de ce monde-là, c'est le programme d'études qui se trouve en Arabie Saoudite. Qu'il faut en finir avec ça. Le programme d'études, ce programme dispensé en Arabie Saoudite là, c'est le programme qui est resté vivace aujourd'hui, qui contribue le grand danger. Sinon, pour l'Égypte, on a fini. Le Maroc, on a fini avec le programme. La Tunisie, on a fini avec le programme. Parce que la femme qui va rentrer dispensée de tafsir est en Égypte, en Tunisie. Elle est en Égypte. Elle s'assied sur sa chaise et les enfants la regardent comme ça en bas. Donc on a fini avec ça. C'est dire que ce livre-là même là. Alors, c'est le temps maintenant d'apprendre. C'est le temps d'apprendre. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, alors ça c'est.
Non, donc la deuxième question.
Moi, ma question est de dire le rôle à sa place à la vie des adolescents. Est-ce que la somme, ça veut dire la même chose? C'est pas, il n'existe pas très bien.
Il a parlé de quoi?
Sunna et salafisme.
Sunna et salafisme.
Comme nous, vous pouvez dire que du côté de la LV, vous servez de la mort.
Sunna et salafisme, c'est deux faces d'une cérémonie. Il faut t'asseoir d'abord et écouter. Quand tu finis t'asseoir, tu médites. Tu ne fais pas ma vie en écoutant pas.
Il faut t'asseoir.
T'asseoir d'abord. C'est deux faces d'une cérémonie. Alors, d'un côté, il est appelé sunna. Pour faire référence à quoi? À la voie que le professeur nous a tracée. Il nous a dit la seule voie, la seule voie qu'il a tracée. Il n'y a pas plusieurs voies. Il y a une seule voie qui est appelée sunna de Rasulullah. La voie tracée par le professeur nous a tracée. Et c'est vrai. D'un autre côté, on l'appelle quoi? Salafisme. C'est-à-dire la voie de la première génération de l'islam. Ça fait référence à quoi? À la première génération de l'islam. Al-Qurun al-Salat al-Mufaddala. Les trois premiers siècles meilleurs de la communauté. Les siècles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les siècles de Tabi, et les siècles de Tabi de Tabi. Les trois premiers siècles. Donc l'islam qui se trouve dans ce contexte-là, est appelé l'islam salafiste. L'islam premier. L'islam de la première génération. Et c'est même cet islam-là qui est appelé aussi la sunna. Parce que la première génération, sur la première génération, ce n'est autre que la seule voie tracée par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la même chose. Voilà maintenant qu'est-ce qui se passe. Tu es de l'autre bord de te dire que tu es. Aujourd'hui même, tout le monde a accepté la sunna. Tous ceux qui ne sont pas chiites, c'est réclame de la sunna. C'est pourquoi c'est l'autre le bon là maintenant qu'on va utiliser. Sunna et salafisme. Là maintenant ils ne sont pas d'accord. Salafisme et ils ne sont pas d'accord. Parce qu'on a annulé deux de mes conférences cette année. Cette année seulement. Dans les établissements. Pourquoi? Parce qu'un salafiste ne vient pas prêcher les élèves de l'AMB. Tout simplement c'est ça. Alors, donc ça, on ne veut pas ça. C'est ça la triste réalité. Alors, on est modéré. On est ouvert, on s'est dit ouvert pour tous, mais effectivement on n'est pas ouvert vers les salafistes. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai lancé ce défi-là. Parce que moi j'étais hostile, j'étais contraire. Il a fallu que je prenne les livres moi-même. Regardez, j'ai lu les livres des frères musulmans. Je les ai chez moi dans ma bibliothèque. Pour connaître qui ils sont. J'ai lu les livres concernant Jamaat Tawhid Tabligh. J'ai leurs documents aussi chez moi. J'ai cette priorité de les lire. Je pouvais passer toute une nuit sans dormir. Quand je commence à le dire comme ça, là, jusqu'à ça. Et c'est pourquoi j'ai toujours des lettres des Saoudiens, mes voisins, qui venaient poser des trucs devant, au-dessus de ma porte, disant de me réveiller à telle heure comme ça pour la prière, à telle heure que j'ai révision. Les gens pensaient que je ne dormais pas la nuit. Donc j'ai pris le temps aussi de dire le salafisme. Faites comme ça. Ne vous contentez pas de ce que les gens disent. Regardez ce qui se passe au Togo. Vous êtes au courant? Les médias n'en font pas cas. Qui sont derrière les attentats qui ont tué nos 10 gendarmes? On ne dit pas, mais ils sont au courant. Donc aujourd'hui, les médias, les forces du mal ne supportent et que quoi? Que ce qui est mal. La vérité, on va l'étouffer. C'est pourquoi l'imam Shafi nous dit que si vous voyez les gens cibler quelque chose, tout le monde tire là-bas. Si tu y vas, tu trouveras la vérité. Il trouve la vérité. Non, voilà mes assises. Non, l'imam Shafi, il dit que si tu vois les gens cibler quelque chose, tout le monde tire là-bas. Ça c'est mauvais. Ça, c'est... Tout le monde tire là-bas. Vas-y. Voir ce qui se trouve. Être curieux pour aller voir. Pourquoi tout le monde est contre ça? Et tu trouves que c'est une vérité. Parce que le monde, qu'est-ce que Dieu a dit? Hein? Il nous accharou billah, il l'a vahum, il te dit accharou billah, il l'a vahum, tu es de l'eau qu'on s'habille. Si tu suis la plupart des gens sur cette terre-là, tu seras égal. Qu'Allah nous assiste.
Amen.
Non, inshallah.
Alors, alhamdulillah, donc, nous avons la fin de cette conférence.